As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Bon vendredi tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Harpin Basu, Marc-Antoine Godin avec vous. Harpin, il reste trois matchs à cette saison régulière-là.
Ouais, il reste trois matchs, puis après ça les séries, puis la façon que ça roule en ce moment. Les séries, en tout cas, ils n'ont pas l'air prêts. Pour les séries, disons, pour être juste pour être poli. Mais oui, effectivement, il y a trois matchs qui restent, puis il y a beaucoup de choses à régler dans le camp du Canadien.
Ouais, c'est. D'ailleurs, on va beaucoup s'attarder à ça aujourd'hui. Essayer d'évaluer un peu le fragile équilibre qu'il y a en ce moment chez le Canadien entre leur niveau de performance et puis leur niveau de fatigue. Un de nos auditeurs qui nous a envoyé il y a quelques jours déjà une question à propos de Jesperi Kotkaniemi, puis on a trouvé que c'était une bonne occasion d'aborder le sujet de Kotkaniemi, d'un peu de développer sur son cas. Alors, vous allez pouvoir entendre son message sur notre boîte vocale. D'ailleurs, parlant de la boîte vocale, écoutez, les séries éliminatoires vont arriver. Peut-être que le format de l'émission va changer un petit peu. On est en train de regarder ça. Mais ce qu'on aimerait toujours obtenir de votre part, c'est votre collaboration en nous laissant des questions sur notre boîte vocale. Donc, pour le faire, c'est simple. Vous avez simplement à appeler le 424-703-3859. 424-703-3859. Je mentionne également que notre invité aujourd'hui, nul autre que l'attaquant Raphaël Harvey Pinard du Rocket de Laval, attaquant recrue avec le Rocket, qui a connu une saison au-delà des attentes. Alors, on va parler avec lui de l'expérience qu'il a vécue avec le Rocket, de Joël Bouchard, de ses coéquipiers. Manquez pas ça en deuxième moitié d'émission. Mais, tout d'abord, Harpin, on vient de le voir, deux matchs en 24 heures du Canadien, une défaite. Sans appel contre les Sénateurs d'Ottawa et le lendemain contre les Maple Leafs de Toronto. Dans les deux cas, le Canadien est tombé à plat. Dans quelle mesure on doit excuser le calendrier ou leur niveau de fatigue pour ça? Puis dans quelle mesure ils sont eux-mêmes responsables de ce qui leur arrive?
Je pense que c'est deux matchs différents. Contre Ottawa, je trouvais que ils ont quand même assez bien commencé le match, mais en cours de route, ils se sont mis à jouer un peu sloppy, si tu veux. C'était pas très... ils respectaient pas le système. Mauvaise passe, mauvaise exécution. Et ça a juste continué dans le match du lendemain contre Toronto. Et contre Toronto, tu fais des erreurs, puis ça va se retrouver dans ton filet. En plus qu'il y avait Caden Primeau dans le but, alors il fallait jouer un peu plus, avoir un peu plus de structure défensive, un peu plus de responsabilité, ce qui n'a pas été le cas. Je pense que le premier but du match, tu sais, j'ai aimé la façon que Dominique Ducharme l'a décrit comme étant un Super Bowl qui s'est retrouvé dans l'enclave, puis tout d'un coup, c'est dans ton filet. Je pense pas que c'est complètement injuste de le décrire de même. C'était un peu un but de circonstance, c'est un peu fluky, mais la réplique après ça, tu sais, ce but-là avait l'air de complètement détruire le Canadien mentalement, puis effectivement, de ce point, c'était comme si ce but fluky-là avait terminé le match. Puis ça, il faut régler ça, parce que c'est pas la première fois qu'on voit que le Canadien donne le premier but du match. Et c'était pas le cas récemment, mais c'est pas la première fois qu'on voit depuis des semaines où le premier but d'un match, en quelque sorte, le Canadien s'effondre après avoir donné un but.
On en a tellement parlé de cette statistique-là, le Canadien s'affiche quand il marque le premier but, quand il concède le premier but, et pourtant, on en a tellement parlé qu'on a l'impression que l'équipe passe son temps à accorder le premier but, et pourtant, il y a eu une majorité de matchs où c'est lui qui a marqué en premier. Alors, c'est juste que c'est tellement... Là, ça vient d'arriver 6 rencontres de suite où le Canadien accorde le premier but. Il y a eu des retours assez spectaculaires, des remontées après avoir comblé des déficits de 2 buts dans 2 matchs au cours des derniers jours. Sauf que de manière générale, effectivement, la tendance est pas du tout favorable. Le Canadien plie l'échine assez rapidement à partir du moment où il concède le premier but. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Hier, ça a placé l'équipe sur les talons. Ça a placé Caden Primo sur les talons beaucoup. Et ça s'est transposé jusque... écoute, plus tard dans le match, le Canadien, à un moment donné, perdait 4-1. En deuxième période, le Canadien perdait 4-1. Il a bénéficié d'un avantage numérique. Puis j'ai eu l'impression que à ce moment-là, si le Canadien avait montré un peu plus de oomph sur son attaque à 5, avait réussi à marquer un but. Là, 4-2, avant la fin de la deuxième période, tu donnes une chance vraiment de revenir dans le match. Sauf que, encore là, j'avais l'impression que le body language de l'équipe, tu avais l'impression qu'ils étaient un peu battus d'avance et que l'uppercut qu'ils ont reçu au menton en début de match avec 3 buts rapides, ils continuaient de les sonner malgré le fait que Arturi Lehkonen avait ouvert... la marque pour eux. En fait, c'est Cole Caulfield qui a marqué le premier but. Lehkonen a marqué plus tard. Mais je pense qu'il y a au niveau de... Je pense qu'il y a un équilibre qui est fragile au point de vue psychologique. C'est là qu'ils m'apparaissent le plus vulnérable parce que même s'ils arrivent là avec toutes les bonnes intentions, en sachant ce qu'ils doivent faire, on dirait que c'est un château de cartes qui est assez fragile et que ça ne prend pas grand-chose pour dérégler la machine puis les éloigner de ce qu'ils savent qu'ils doivent faire.
Oui, et pourtant, c'est même à 4-2 en troisième période, il restait quand même pas mal de temps. Là. Il restait, je pense, 16 minutes dans le match pour marquer 2 buts. Tu oserais croire que ça te donnerait un petit boost de momentum et que tu irais... J'imagine les deux entr'actes n'étaient pas très plaisants dans le champ du Canadien. Je ne sais pas c'est quoi le style de Dominique Ducharme entre les périodes, mais je pense que les joueurs eux-mêmes serait en train de dire, écoute, là, c'est assez, là, il faut qu'on revienne dans ce match-là. C'est pas perdu. Puis particulièrement après le but de Lehkonen, je pensais voir un vrai push. Tu sais, on le voit souvent, là. Tu sais, à 4-0, tu sais, c'est ça l'affaire. Quand c'est 4-0, tu peux souvent dire que l'équipe qui perd 4-0 dit, ah, on s'est mis à mieux jouer après. Oui, évidemment, c'est 4-0. Tu sais, les Maple Leafs vont resserrer leur jeu, vont essayer de ne pas trop donner de chance, mais ils ne vont pas pousser non plus en attaque comme normal, comme si le marque était égal. Tu sais, il y a un phénomène qui s'appelle score effects, puis c'est pas rien, là, c'est vrai. Alors, oui, c'est bien beau que tu aies été capable de marquer 4-1, mais marquer 4-2 avec 16 minutes à faire, il y a quand même un espoir légitime. T'as juste besoin de marquer un autre but, puis là, tout d'un coup, c'est un game de... C'est un match de bounce. Là. C'est un match de... Tu sais, tu peux jouer de la bonne chance, tu peux jouer... Il y a plein de choses. Tu peux avoir une supériorité numérique. Il y a plein de choses qui peuvent arriver qui vont te permettre d'égaliser la marque. Et ce push-là c'était comme s'il n'avait pas ça dans le réserve. Tu sais, ça n'existait pas là. C'est pas qu'ils ont mal joué après le but de 4-2, mais c'était pas vraiment... Ils n'arrivaient pas en vague en termes d'offensive et en termes de pression dans la zone offensive, en termes de créer des chances. Il y en avait quelques-uns, mais je pense que sa voix... Tu sais, moi, mon problème en ce moment avec l'équipe et tout le discours qui entoure l'équipe, c'est que... Tu sais, quand ils sont revenus de leur pause COVID, là, c'est... Tout le monde a regardé le calendrier et dit « Hey, ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, comment ils vont faire pour jouer ce calendrier-là? Alors là, on est rendu quasiment à la fin du calendrier. Et effectivement, c'était leur dernier match de back-à-back. Là. C'était le dernier match, le dernier instance de deux matchs en deux soirs. Puis maintenant, ils vont avoir un calendrier normal. Ils vont avoir un jour entre chacun des trois matchs qui reste à jouer. Puis après ça, ils vont avoir une bonne break avant les séries éliminatoires. Mais au moment où ils ont sorti de la pause COVID, tout le monde, quasiment tout le monde, disait comment ils vont faire ça, comment est-ce qu'ils vont être capables de faire ça. Oh, ils vont avoir des blessés. Oh, ça va être difficile. Oh, ils vont avoir l'air fatigués. Puis toutes ces choses-là qu'on a prévues quand ils ont sorti de la pause COVID sont en train d'arriver en ce moment. Et c'est comme si tout le monde a oublié qu'est-ce qu'on a dit quand ils ont sorti de la pause COVID, parce qu'on le voit. C'est évident. Tu sais, quand le Canadien... Écoute, le Canadien, c'est pas une équipe parfaite, là, mais une chose qu'ils sont généralement capables de faire, puis ils sont supposés être capables de faire, puis le système et le design du système est fait en sorte qu'ils soient capables de faire ça, c'est de faire des passes de 5 à 10 pieds. Tout le système est basé là-dessus, et ça prend pour acquis que des joueurs de la Ligue nationale de hockey soient capables de prendre une rondelle, puis de passer à un coéquipier qui est entre 5 et 10 pieds de distance, puis que la passe soit sur la palette, que ça soit, tu sais, que ça soit pas derrière lui, que ça soit pas avant lui, que ça soit parfait. Et ce qu'on voit quand le Canadien n'est pas sharp, c'est que ces passes-là sont extrêmement difficiles à compléter. Et comme Dominique Ducharme l'a déjà dit, c'est pas une question d'habileté, là. Ce sont tous des joueurs de la Ligue nationale, ce sont les meilleurs joueurs au monde, mais ça devient une question de fatigue, mental surtout, mais aussi physiquement, et aussi juste l'effet cumulatif de jouer des matchs, ça te rattrape à un moment donné. Puis je pense que c'est quand même évident que c'est ça ce qui est en train d'arriver avec le Canadien. Alors, l'image du Canadien en ce moment, je pense pas que c'est un bon reflet du vrai image de l'équipe. Là. Et c'est ça. Mais étant dit ça, il va falloir qu'on voit ça avant les séries. Alors, ils ont trois matchs là, qui s'en viennent. Puis là, aujourd'hui, ils patinent pas à Toronto. Je pense que Ducharme a eu la décision sage d'annuler l'entraînement qui était prévu pour vendredi. Mais il va falloir que le Canadien montre quelque chose. Là. C'est parce que tu peux pas rentrer en série comme l'équipe qu'on a vue dernièrement.
Non, mais il reste trois matchs. Moi, il me semble que le tu sais, pour reprendre les mots de Jacques Doucet, quand les Expos perdaient par deux points en huitième manche, là, puis qu'il y avait deux retraits en huitième, il disait, il commence à se faire tard pour les Expos. Ben là, il commence à se faire tard pour les Canadiens. T'sais. Je veux dire, ils ont. Je comprends que tout l'aspect du calendrier, l'impact que ça a eu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, il y a un momentum qu'il faut aller chercher, puis on a l'impression que les ingrédients de ce momentum-là, tu sais, il faut juste le temps d'aller rechercher les joueurs qui sont blessés, de trouver la cohésion, de trouver des entraînements. Tu sais, je ne pense pas personnellement que ça va être dans les trois derniers matchs que l'équipe va pouvoir trouver ça. Par contre, il va y avoir un certain nombre de jours, 5 ou 6 jours, entre leur dernier match puis le début des séries éliminatoires, en prenant pour acquis qu'ils vont participer aux séries. Je pense que tout va jouer là, là. Honnêtement, pour eux, ça va jouer à Brassard. Ça va jouer avec le retour de Carey Price, le retour de Brendan Gallagher, de Shea Weber, avec aussi probablement quelques bons dodos, avec aussi une meilleure maîtrise de leur système de jeu par le biais d'entraînement efficace puis bien ciblé. Mais quand tu passes d'un match à l'autre constamment comme ça, j'ai l'impression que ils n'ont pas le temps d'intégrer ou de s'améliorer. Tout ce qu'ils font, c'est tout ce qu'ils font, c'est essayer de garder la tête hors de l'eau. Fait que des fois, t'en gagnes une, des fois, t'en perds une. Puis tu prends. Ils n'ont pas réussi à prendre de rythme jusqu'à maintenant. Puis j'ai pas. C'est pas que je suis démoralisé ou inquiet par rapport au potentiel de cette équipe-là, mais je trouve qu'ils sont pas dans une situation qui est propice à ce qu'ils aillent atteindre leur potentiel.
Ben, une chose que je dirais, c'est que. C'est pas évident pour un coach recrue de la Ligue nationale de commencer à faire cet emploi-là sans camp d'entraînement. De quelque sorte, là, il va en avoir un. Il va avoir l'opportunité, Dominique Duchamp, de mener un genre de mini-camp d'entraînement avant les séries. J'ai l'impression, tu sais, écoute, Dominique Duchamp fait l'objet de beaucoup de critiques en ce moment. Et je le comprends parce que la fiche du Canadien est pas super sous ses ordres. C'est 15-15 et 5, si je ne me trompe pas. Mais il y a beaucoup de circonstances qui peuvent expliquer cette fiche-là, à part Dominique Duchamp. Il y a des décisions qui sont un peu qui suscitent des questions, disons, des fois. Mais je pense qu'il les explique toutes. Avec une clarté, une honnêteté et une confiance dans ses décisions qui est quand même assez admirable. C'est quelque chose que tu aimerais que tous les coachs font, mais c'est vrai que ça commence à. La soupe devient chaude, là, si on peut se permettre, puis on le voit dans lui. Alors, je pense avoir ces 5-6 jours-là pour Dominique Duchamp. Tu sais, je veux pas être trop. Je ne veux pas mettre trop de drame là-dessus ou trop de. Je veux pas parler trop gros, là, mais je pense qu'on s'entend qu'en quelque sorte, il va avoir un camp d'entraînement pour retenir son poste, disons, parce que c'est quand même un entraîneur qui a l'intérim attaché à son nom très, très fortement. Il y a toutes les conséquences qu'on connaît dans la saison morte si le Canadien n'est pas capable de faire un bon bout de chemin en séries éliminatoires. Alors, je ne sais pas comment il va réagir à cette situation-là, mais le fait qu'il a au moins du temps pour travailler avec son équipe sans jouer de match, je pense que ça va être un grand bénéfice. Et non seulement ça, mais une équipe en santé, en théorie, comme tu viens de le mentionner, ça va être une opportunité de vraiment évaluer le travail de Dominique Duchamp dans un contexte qui est juste, tu sais, qui n'a pas de contraintes, puis en fait qui a des bénéfices pour ce qu'il puisse remettre cette équipe-là et bien le préparer pour les séries éliminatoires.
Quand tu parles de Duchamp qui explique bien ses décisions, des décisions qui à première vue peuvent apparaître discutables, je trouve qu'on en a eu un bon exemple après le match de jeudi contre Toronto. Quand tu dis, ben, écoutez, pour ce qui est de remplacer Caden Primeau, j'avais pris ma décision dès le milieu de la période de le remplacer, mais je ne voulais pas courir le risque de rentrer Jake Allen à froid dans un contexte où il risquerait de se blesser, parce qu'avec Carey Price qui est déjà sur la touche, on ne peut pas se permettre de faire entrer Allen dans le match à un moment où il s'exposerait davantage à une blessure, justement parce qu'il n'est pas proprement réchauffé. Je trouve que ça a beaucoup de bon sens. C'est très prudent. C'est vrai que d'un certain côté, tu dis, ben, faut que soit que tu changes de gardien à un moment où tu crois que tu peux encore revenir dans le match, ou bien tu décides de garder ton gardien auxiliaire parce que tu veux vraiment reposer Allen. Sauf que je trouve qu'il y avait une certaine logique derrière ça, puis j'ai trouvé ça intéressant de l'entendre.
Oui, sauf que ben, ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'il savait très bien que le but de Marner, c'est vraiment le but qui a vraiment tué le Canadien. Écoute, 3-0, c'est pas évident et je suis pas certain que le Canadien aurait pu remonter ça non plus, mais 4-0, c'est vraiment lights out, là. C'est comme, alors, en attendant, après le but de Pierre Engvall, qu'on s'entend, tu sais, Caden Primeau a donné un très mauvais retour et il aurait pas dû donner ce but-là, tu prenais cet risque-là. Si tu voulais absolument gagner le match, si tu voulais absolument gagner le match, c'était clair que c'est ça qu'il voulait parce qu'il a rentré Jake Allen en deuxième période. Alors, c'est pas. Tu sais, on a déjà vu des situations, tu sais, on passe au fameux Al Montoya à Columbus, là, où Tu sais, Michel Therrien voulait absolument pas que c'était Carey Price, l'autre coup. Non. C'était, en tout cas, il voulait vraiment...
Mais c'est qu'il y avait un deuxième match en deux soirs.
Il y avait un deuxième match en deux soirs, et puis il voulait pas remplacer le gardien. Il voulait garder son gardien pour le prochain match. C'était pas le cas à Toronto. Alors, ouais, Dominique, tu sais, en expliquant son thinking, il s'est ouvert à des critiques. C'est un exemple parfait, je suis entièrement d'accord. Et en fait, je vois la logique dans son thinking, sauf que son thinking a quasiment coûté... a pas permis aux Canadiens, disons, de remonter dans le match. Alors, tant qu'à ça, pourquoi pas laisser Primo dans le filet pour la deuxième période après ce quatrième but-là? C'était... En tout cas, c'était discutable. C'est ce qu'on est en train de faire.
Ouais. écoute, il y a quelques semaines, dans notre calepin hebdomadaire, on mentionnait le fait que, tu sais, à l'époque où Price s'est absenté une première fois et Primo avait été rappelé pour agir comme adjoint à Allen, mais durant toute l'absence de Price, Primo n'avait pas joué du tout, puis on avait écrit que ça aurait été bien que le Canadien voit un peu une idée du chemin qu'a parcouru Primo et de quoi il aurait l'air face à la compétition de la Ligue nationale, surtout dans un contexte où Allen pourrait être une prise de choix pour le Kraken de Seattle. Et si Primo est appelé à être l'adjoint de Price l'année prochaine, ce serait bon que l'équipe sache à quoi s'en tenir puis si le jeune gardien, finalement, va être prêt à assumer ce rôle-là. Depuis, Price s'est blessé de nouveau. Primo a eu 3 départs. On sait très bien comment ça s'est passé pour lui jusqu'à maintenant. Là, il se retrouve avec un... Évidemment, le match d'hier n'aide pas, mais il se retrouve avec un taux d'efficacité de 859. De ce que tu as vu de Primo dans ces 3 matchs-là, est-ce que tu serais à l'aise de le voir être le gardien de but substitut du Canadien l'année prochaine?
Ah, oh, oui, absolument. Et je pense que c'est avoir ce rôle-là... excuse-moi. Puis avoir ce rôle-là, puis avoir la confiance de l'entraîneur, n'importe qui, je ne sais pas c'est qui va être l'entraîneur l'année prochaine, mais être solide dans ce rôle-là, je pense que c'est un gardien de talent. Puis à date, avant le match contre Toronto, il était bon, tu sais, il a joué 2 fois contre Ottawa, et je trouve qu'il était assez solide, il n'était pas super, mais il n'était pas mauvais, là. Puis même contre Toronto... Tu sais, le quatrième but dont je parlais tantôt, comment ça se fait que toute une équipe peut laisser Mitch Marner littéralement prendre la rondelle proche de la ligne bleue puis se rendre directement au filet sans que personne vienne le voir? Il était tout seul.
Oh oui.
Un des meilleurs joueurs au monde. Top 10, disons, probablement. Et il se retrouve avec la rondelle, au plein centre de la glace, puis il n'y a pas un chandail blanc même proche de lui. Alors oui, est-ce que Caden Primo s'est compromis là-dessus? Il était trop agressif là-dessus? Oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment le blâmer sur ce but-là? Je pense pas. Il y avait un couple de buts qui aurait dû arrêter, celui d'Engvall, comme j'ai mentionné, entre autres. Mais ça veut pas dire que c'était... Tu sais, je trouve pas que... Il était en train d'essayer de gagner ce poste-là pour l'année prochaine. Là. Moi, je serais confiant de le voir comme le substitut à Carey Price, puis un substitut qui joue quand même assez souvent, parce que Jake Allen l'a dit clairement après le match, puis on n'entend pas souvent ça d'un joueur, mais tu sais, il dit, tu sais, Carey Price, à un moment donné, il ne va plus être là, puis ça va être l'équipe de Caden, puis alors le kid, il a du talent, puis, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que le Canadien le sache si c'est vraiment ça le cheminement qui s'attend à Caden Primo dans son avenir. Et la seule façon que tu vas le savoir, c'est en le jouant. Alors, moi, ouais. Je pense qu'il n'y a rien que j'ai vu en 3 matchs qui change ça pour moi. Là.
OK. Je te pose la question parce que, tu sais, il est toujours question de la façon dont le Canadien développe ses jeunes joueurs, développe ses espoirs. Est-ce que l'équipe prend suffisamment son temps pour que les joueurs se développent à des niveaux inférieurs, qu'ils apprennent à dominer à d'autres niveaux, entre autres dans la Ligue américaine, avant de graduer à la Ligue nationale puis d'être capable de prendre les responsabilités que leur potentiel suggère qu'ils vont être en mesure de prendre à un moment donné? Donc, on l'applique Il y a eu nombre d'exemples chez les patineurs, mais chez les gardiens de but, je pense que ça s'applique aussi à Primo. Mais je voulais t'amener sur un terrain différent encore pour rester dans la question du développement des jeunes joueurs avec Jesperi Kotkaniemi. Vous allez entendre le commentaire ou la question d'un auditeur du Super Athlétique qui nous a envoyé cette question-ci à propos de Jesperi Kotkaniemi. Je dois vous aviser que c'est une question qui nous a été envoyée il y a quand même plusieurs jours. Donc, si vous trouvez que notre auditeur a mis ses lunettes roses pour nous parler de Jesperi Kotkaniemi, ben on va quand même tenir compte du fait que, bon, c'est vrai que ça a été plus difficile pour KK au cours des derniers matchs, mais je pense que ça nous amène quand même sur une piste de discussion très intéressante. Donc, on va laisser la parole à notre intervenant, puis on revient tout de suite après.
Salut les gars, je m'appelle Marc-Antoine, puis je viens de la rive sud de Montréal. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de Kotkaniemi. Parce que cette année, je trouve qu'on entend parler beaucoup de Brady Tkachuk, puis avec raison, mais moi, je veux pas les comparer, parce que je trouve que Kotkaniemi, il joue vraiment du excellent hockey. Particulièrement, je trouve, là, depuis début mars, je trouve qu'il est très constant dans son hockey. Il est excellent sur 200 pieds, je trouve. Défensivement, on l'a vu contre Conor McDavid, que c'est quand même pas rien, je pense, d'être capable de pas contrôler, mais de restreindre Conor McDavid dans son talent puis dans ses présences de jeu. Puis je trouve que c'est encore plus impressionnant qu'il peut jouer du hockey de cette qualité par le fait que je trouve qu'il n'y a pas des line mates de façon très constante, pas souvent les mêmes. Puis il est souvent aussi en rôle de troisième centre avec des line mates comme Byron, comme Lekkonen, comme Armia, qui sont pas les joueurs de hockey, mais c'est pas nécessairement Anderson, c'est pas nécessairement Toffoli qui ont plus une touche offensive puis qui vont pouvoir permettre à Kotkaniemi un peu de vraiment faire flasher son offensive. Puis je trouve qu'en dépit de ça, il est quand même capable de générer de l'offensive, de prendre les bonnes décisions puis d'être bon sur 200 pieds. Puis pour utiliser l'expression anglophone, tu sais, il y a juste 20 ans, il est encore en train un peu de grow in his body. Puis je trouve que cette année, il a rentré un gros step. Fait que je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? On arrive à la fin de la saison, on va rentrer dans les playoffs. Qu'est-ce que vous pensez de KK? Où est-ce que vous voyez sa progression? Puis est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir, en quelque sorte, une genre de promotion de jouer plus souvent avec les mêmes partenaires de trio, puis des gars peut-être avec une touche un peu plus offensive pour vraiment voir qu'est-ce qu'il peut nous donner sur le plan offensif? Je vous remercie les gars, bon show, puis toujours un plaisir de vous écouter. Bonne journée.
Ben, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est d'abord, merci de nous avoir envoyé ce message-là. C'est toujours apprécié. Il y a plusieurs... je vais commencer par le lien qui est fait entre Kotkaniemi et Brady Tkachuk. C'est sûr que c'est dérangeant du point de vue du repêchage, du rang de repêchage et du fait qu'à l'heure actuelle, c'est clair que le Canadien n'a pas l'air d'une équipe qui a fait le bon choix. Cela étant dit, je pense que Brady Tkachuk est quand même un joueur qui est arrivé dans la Ligue nationale en ayant un arsenal beaucoup plus prêt pour la Ligue. On a souvent dit qu'il y avait un an de plus que KK, puis il y en a qui sont tannés d'entendre ça, mais c'est une réalité. Et je pense que...
Il est quasiment le même âge que Suzuki.
Oui, exact. Puis Tkachuk...
Il y a un mois ou deux mois de différence, là. Un mois, je pense.
Je ne sais pas si Tkachuk a encore autant de place à amélioration pour vraiment élever son potentiel comme Kotkaniemi. Le fait qu'il ait déjà atteint ce qu'il a atteint, c'est tout à son crédit, ça lui donne une longueur d'avance parce que c'est quelque chose qu'il a déjà prouvé et que Kotkaniemi, lui, il reste à aller chercher ces gains-là. Mais les gains potentiels en termes de talent, en termes d'upside, à mon avis, sont là. Alors, c'est sûr que les premières années, je pense que c'était assez... Je pense que le Canadien lui-même le savait d'avance qu'au début, ce ne sera probablement pas le meilleur look pour eux autres puis que Tkachuk allait avoir le dessus.
Une chose là-dessus que je pense que ça vaut la peine de mentionner, là, c'est que à l'époque, là, il n'y avait pas grand monde qui voulait que le Canadien choisisse Brady Tkachuk. Le gars que tout le monde voulait que le Canadien choisisse, c'était Philip Zadina. On s'entend là-dessus. L'engouement pour Brady Tkachuk était beaucoup moins que c'était pour Philip Zadina. Et là, par après, ça l'a... Tu sais, vu que Brady Tkachuk fait ce qu'il fait à Ottawa, cet aspect-là, ça s'est oublié un peu. Puis, tu sais, je pense qu'il y aurait eu pas mal de monde qui supporte le Canadien de Montréal qui aurait été déçu de voir Brady Tkachuk repêcher parce que tous les rapports... Tu sais, ce qu'il est en train de faire, c'était pas prévu par grand monde, là, sauf les sénateurs d'Ottawa, évidemment, mais, Mais tu sais, il y avait des questions sur ses chiffres au collège, sa seule saison collégiale, son style de jeu. Il y avait du monde qui le comparait à Lawson Crouse à un moment donné. Tu sais, c'est pas comme si c'était un slam dunk pick là, à l'époque. Là. Et ça a l'air de ça maintenant à cause. Puis le crédit revient à Tkachuk à cause de la façon qu'il joue à Ottawa dans un contexte qui est quand même pas mal différent que ce qu'on voit à Montréal, qui est plus similaire à ce qu'on voit à Détroit, en fait. Et Zadina, il performe pas vraiment encore, pas encore, non plus. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve a beaucoup été oublié par beaucoup de monde, que Brady Tkachuk était vraiment pas... n'était pas le gars que tout le monde voulait que le Canadien repêche au troisième rang.
Non, effectivement. Sauf Trevor Timmons, parce que ils avaient Tkachuk. Tkachuk est celui qui était le suivant sur leur liste. C'était pas Zadina. Zadina n'a pas été un joueur. Ouais. C'était pas un espoir que le Canadien convoitait.
Mais on s'entend que Trevor Timmons voulait repêcher Jesperi Kotkaniemi.
Oui, absolument.
Tkachuk n'était pas derrière Kotkaniemi sur son liste. Là.
Ben, en fait, c'est-à-dire que si jamais il y avait eu une situation qui aurait fait en sorte que le Canadien avait échangé son choix puis avait reculé de quelques rangs, le gars qu'il y avait derrière, c'était Tkachuk.
C'était Tkachuk, oui.
C'est ça. C'était pas Zadina. Écoute, ils ont invité Zadina et ils lui ont fait une entrevue à l'occasion du Combine. Puis Zadina, non, même pas à l'occasion du combine, mais quelques jours avant le repêchage. Puis Zadina avait un peu rigolé de ça en disant, bon, ben, il me rend compte, là, mais finalement, tu sais, c'est comme, ça avait l'air d'être un peu plus pour la forme, mais l'intérêt du Canadien envers Zadina était pas comparable. Sauf que tu as tout à fait raison de dire que c'était clair, je pense, à partir du milieu du printemps, là, que le gars qu'ils voulaient voir dans leur organisation, c'était Kotkaniemi. Kotkaniemi est arrivé à l'âge de 18 ans. On peut dire qu'il a, au point de vue statistique, la progression est très tranquille à l'heure actuelle. On parle de cette année de son temps d'utilisation, mais aussi de la variation au niveau de ses compagnons de trio. Le Canadien est allé chercher du renfort sur les ailes. Il y a une belle profondeur, mais moi, ça m'apparaît que tant et aussi longtemps que Kotkaniemi va être le troisième centre de cette équipe-là, il va, d'un point de vue de talent offensif à ses côtés, il est destiné à un peu se ramasser avec les restes. Là. Ça prend vraiment une équipe qui est complètement en santé pour qu'il puisse hériter soit de Toffoli ou de Anderson à ses côtés. Puis tu sais, il y a eu énormément de rotation, sauf qu'au début de la saison, quand tout le monde est en santé, c'était quand même Toffoli qui était son allié le plus fréquent. Mais c'est clair que le manque de stabilité à ce niveau-là ne l'a pas aidé non plus.
Ben en fait, non. Ben c'est sûr. Puis j'ai checké ça hier soir après le match parce que j'étais curieux. Mais les quatre patineurs avec qui Kotkaniemi a joué le plus souvent cette saison sont tous des défenseurs. Puis les deux plus fréquents sont les deux gardiens. Ça commence avec Jake Allen et Carey Price, puis après, c'est quatre défenseurs. Toffoli, c'est effectivement son coéquipier le plus fréquent, sauf que sur 660 minutes à 5 contre 5, il a joué avec Toffoli à peu près 200 minutes.
Ouais.
Il y a sept attaquants sur cette équipe-là qui a passé au moins 100 minutes de temps de glace avec Jesperi Kotkaniemi à un moment donné cette saison. C'est pas exactement... Tu sais, c'est pas comme si... Jesperi Kotkaniemi mérite d'être dans le top 6 ou qu'il devrait donner un rôle comme premier centre. C'est pas le cas du tout. Sauf qu'une certaine stabilité, être capable de bâtir une certaine chimie, même si c'est Arturi Lehkonen et Joel Armia, peu importe. C'est juste de donner à un gars, OK, voici tes linemates qui va, sauf s'il y a des blessures ou quoi que ce soit, ils vont rester avec toi. Ça, c'est ton rôle. Ça changera pas trop. Va. Je veux voir ça, ça, ça et ça de toi sur une base régulière. Alors, vas-y et accomplis ce que tu as à accomplir. Sauf que dans son cas, non seulement il y a eu une rotation quand même assez hallucinante à côté de lui, à deux reprises, il a été mis à l'aile gauche avec Philippe Dano. Je pense que la première fois, il est quand même bien fait, mais on trouvait que ça ne marchait pas pour une raison quelconque. Et la deuxième fois, ça carrément pas fonctionné du tout. Puis là, il se trouve... au centre, 2, 3 ou 4, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que pendant toute la saison, c'est le seul joueur de centre qui avait pas vraiment un rôle très défini pour lui. Et c'est ça ce que ça prend, je pense, pour un jeune joueur, c'est d'avoir un rôle clair, bien défini, et de connaître les attentes, pas les attentes en termes de buts et passes, là, mais des attentes de façon de jouer, de ce que tu veux accomplir sur la glace, puis avoir des attentes qui sont atteignables, tu sais. Puis c'est ça l'affaire que je trouve que peut-être n'a pas été bien fait dans son cas, puis lui a sa part de responsabilité là-dessus aussi, là, mais je trouve qu'en termes de développement, t'aimerais voir ça au lieu de ce qu'on voit en ce moment avec lui.
Oui, absolument. Ben écoute, il y a quand même la progression à certains sur certains pans de son jeu. Je pense entre autres aux mises en jeu. Je pense que le travail défensif, il y a eu un très beau progrès de sa part dans son implication au plan défensif, d'être capable d'exercer une bonne pression arrière, d'être plus alerte dans ses replis. C'est pas toujours le cas, mais je pense que ça l'est avec plus de régularité. Il est en train, comme le dit notre auditeur, de prendre beaucoup plus de possession de son corps, d'une certaine manière, puis d'avoir une implication physique qui est plus notable. Puis je pense que ça l'aide à s'impliquer dans les matchs quand il est actif au plan de la robustesse. Cela dit, c'est évidemment, on s'attend à ce qu'il soit un des moteurs de l'attaque de cette équipe-là. D'ailleurs, j'en ai parlé à Dominique Ducharme il y a quelques jours, parce que tu sais, Kotkaniemi, on a l'impression souvent qu'il dribble avec la rondelle. Hein. Il arrive dans l'enclave, il a la rondelle et au lieu de dégainer rapidement, il manipule le disque pendant une seconde ou deux. Puis on dirait que c'est tout ce que ça prend pour que l'espace devant lui, son corridor de tir se referme avec des adversaires finalement qui vont se placer dans la ligne de tir. Puis finalement, le lancer soit atteint pas le filet ou encore il est forcé de tirer hors cible. Et ça, je pense que c'est... Et Ducharme en a parlé comme étant une vieille habitude qui devait casser. Mais Ducharme lui-même disait aussi, il dit de façon plus générale, là, il dit là où on veut que Kotkaniemi gagne en constance, c'est dans sa façon, c'est de rester dynamique dans sa façon de patiner. Parce qu'il dit quand il patine plus, quand il bouge ses pieds, comme on dit, ben là, à ce moment-là, il se donne plus d'espace pour faire des jeux. Puis il va chercher plus de rondelles qui sont des rondelles, des batailles pour la rondelle, des 50-50, comme on dit. Et il dit s'il reste plus actif dans ces deux départements-là, ça va faire en sorte qu'il va avoir plus souvent la rondelle sur son bâton. Puis on sait à quel point c'est un gars qui peut être créatif, faire des belles passes, etc. Donc, il y a tout un apprentissage à aller chercher de ce côté-là. Puis je pense que son manque de confiance à l'heure actuelle est assez évident. Mais je vais conclure à propos de Kotkaniemi là-dessus, c'est que je trouve que la décision du Canadien de mettre autant de responsabilités entre les mains de Kotkaniemi et de Suzuki sur la base seulement de ce qui s'est passé durant la bulle l'été dernier, c'est un pari très risqué pour le Canadien parce que s'il y en avait un des deux qui allait répondre aux attentes créées l'été dernier, ce serait déjà beau. Je pense que c'était un peu utopique de croire que les deux allaient continuer sur une lancée fulgurante puis vraiment se développer à ce rythme-là. Autant Suzuki que Kotkaniemi ont eu des difficultés cette année. Suzuki a l'air de s'en sortir, là, c'est au tour de Kotkaniemi d'en avoir. Mais je trouve que ça place le Canadien dans une position vulnérable à l'aube des séries parce qu'il y a tellement qui est entre leurs mains. Puis c'est des grosses responsabilités pour des gars qui en sont à leur troisième et deuxième année respectivement. C'est mon avis et je le partage.
ouais, non, absolument. Puis tu sais, on verra ce que ça donne en série aussi là. Puis je pense que on a parlé du calendrier tantôt. C'est difficile pour les joueurs plus vieux. On pense à Perry, Staal, Weber, tu sais, des gars comme ça, Price. Ça se peut que ça soit difficile pour les joueurs plus jeunes aussi là. C'est, on verra en série. Je pense que tu sais, si on se rappelle, tout ça est basé sur le fait que Kotkaniemi a vraiment bien joué dans la bulle. Avant ça, sa saison était un désastre. Là. Ouais. Il était à Laval. Alors, on s'entend que... Puis, il joue pas aussi mal maintenant qu'il jouait à l'époque, l'année passée. Alors, je pense que... c'est l'évaluation de son jeu, ça devient un peu démesuré des fois à cause du fait qu'il était choisi au troisième rang du repêchage. Puis c'est bien correct, ça vient avec. C'est normal. Mais... Il faut rappeler que le gars, il a 20 ans. Il va avoir 21 ans en juillet. Il y a six mois plus vieux que Cole Caulfield, qui, je dois ajouter, a aussi cette tendance-là de dribbler la rondelle avant qu'il lance. Là. C'est pour créer de la confusion avec le gardien, mais on verra si lui aussi il va falloir qu'il casse cette habitude-là. Mais je l'ai remarqué dans son cas aussi que c'est quelque chose qu'il fait souvent. Ouais. Il fait un petit paf-paf, puis après il lance. Alors, on verra dans son cas. Mais pour Kotkaniemi, j'attendrai le voir jouer en séries éliminatoires avant de faire un jugement final sur sa saison. C'est tout ce que je dis.
Ouais, puis écoute, le jugement final, on n'a même pas besoin d'en faire après, au terme de cette saison-ci. Je pense que si on prêche la patience auprès des jeunes joueurs, il faut que dans notre évaluation, on en démontre aussi un petit peu. Là. Fait que, voyons voir, espérons pour le mieux. Écoute, on va maintenant passer à notre invité du jour. Cette semaine, on est très content de recevoir avec nous Raphaël Harvey-Pinard, attaquant recrue du Rocket de Laval. Je pense que c'est assez étonnant comme contribution. Écoute, Harvey-Pinard avait été un choix de 7e ronde du Canadien. Le Canadien a eu quand même eu une assez bonne feuille de route avec ses choix de 7e ronde dans les dernières années, avec Caden Primo, avec Jake Evans. Alors, probablement que... Ben, c'est sûr que Raphaël Harvey-Pinard va souhaiter suivre cette tendance-là. Alors, pour discuter de sa saison, il a été assez gentil pour passer au Super Athlétique et nous accorder un peu de son temps. Donc, je vous invite à rester les nôtres pour écouter cette entrevue-là.
Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Bon, rebonjour tout le monde. On va commencer tout de suite. On a un invité très spécial, Raphaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval. Qui connaît toute une saison recrue en tant que professionnel. Bienvenue à l'émission, Raphaël. Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Ben oui, Raphaël, je veux rappeler à tout le monde un petit peu, là, c'est assez. T'as un parcours assez spécial pour un gars qui avait été coupé du Bantam 2A, qui avait été coupé du Midget 3A. Qui a dû attendre la dernière année de son éligibilité pour être repêché par une équipe de la Ligue nationale. Pourtant, tu as fait ta marque partout où tu es passé, entre autres à Rouyn-Noranda, à Chicoutimi, tu as été capitaine aux deux places, tu as gagné la Coupe Memorial avec Rouyn. Comment tu dirais que cette année, avec le Rocket de Laval, tu as réussi à faire ta marque?
En fait, je pense que ça s'est fait vraiment de façon graduelle. De base, en arrivant au camp, je ne savais pas trop à quoi m'attendre nécessairement. Là, c'était ma première expérience au niveau de la Ligue américaine. Tout ce que je me suis dit dans ma tête, là, c'est qu'à chaque fois que je m'envoie sa patinoire, je vais donner mon 200%, puis on va voir ce qui va arriver. Je me suis entraîné fort pendant le confinement. On a eu une longue période. Donc, j'ai pu travailler sur des petits aspects. Puis, quand je suis arrivé, là, vraiment, je pense que l'adaptation s'est bien faite. On a des bons vétérans. Joël Bouchard nous a aidés aussi, nous les recrues. Donc, je pense vraiment que tout ça s'est fait graduellement. Puis, je suis vraiment content de mon adaptation avec le Rocket.
Il me semble pas. C'est une réalité avec le Rocket cette année, avec plusieurs équipes de la Ligue américaine, que le changement de personnel, ça se fait à chaque jour. Ce qui se passe avec le Canadien, ça vous impacte. Le squad de réserve, toutes les différentes aspects qui rentrent dans les décisions de l'alignement. Mais toi, par contre, tu as réussi pas mal à rester dans l'alignement plus ou moins tout le long. À chaque fois qu'on parlait à Joël Bouchard de ton égard, T'sais, la seule chose qu'il disait, je pense que ça doit faire une centaine de fois qu'il t'appelle un joueur de hockey, ce qui est comme le meilleur compliment qu'il peut donner. Mais toi, tu sais, Joël, il parle de ça souvent, tu sais, c'est la première qualité qu'il cherche dans un joueur, que ce soit un joueur de hockey. Toi, quand tu entends ça, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, là? Qu'est-ce que tu penses que lui veut dire par ça? Puis pourquoi il te voit dans ces eaux-là?
Ben, vraiment, pour moi, c'est que ça veut dire, c'est sûr que c'est ça faire, tu sais, complimenter de la façon que je suis un joueur de hockey, c'est un excellent compliment. Je pense que ça explique un peu de ma façon de jouer. Je pense que ça vient avec un peu mon éthique de travail. Quand j'arrive à l'aréna, ben, c'est pour jouer au hockey. Je pense que c'est pour ça qu'il emploie ce terme-là. Dans le fond, pour moi, c'est le fait qu'il me caractérise de même, c'est quand même gros parce que mon objectif, moi, plus tard, c'est de jouer au hockey pour le reste de ma vie. Donc, pas pour le reste de ma vie, mais pour avoir une longue carrière. Donc, c'est sûr que quand j'arrive à l'aréna, c'est pour faire une différence. Puis quand j'embarque sa patinoire, c'est pas pour me traîner les bottines.
Quand j'entends Joël dire ah, lui, c'est un joueur de hockey, c'est comme si il y a ceux qui ont du talent puis qui utilisent leur talent pour jouer au hockey, tandis qu'il y a un niveau d'engagement. Les gars qui sont vraiment des joueurs de hockey, c'est parce qu'ils ont comme une coche au niveau de l'engagement qui est de plus, puis qui fait en sorte qu'ils utilisent leurs habiletés au maximum. Puis je pense que c'est un des éléments qui définissent. C'est pas pour rien que tout le monde passe leur temps à dire que t'es le Brendan Gallagher du Rocket, que justement, il y a un niveau d'engagement dans ton jeu qui distingue. J'imagine que ça doit être une source de fierté pour toi, là.
Oui, ben vraiment, c'est une source de fierté. Puis si tu viens de le mentionner, là, je me suis comparé quelques fois à Brendan Gallagher. Puis encore une fois, là, c'était comme un honneur pour moi de me faire comparer à un joueur comme ça. Fait qu'à chaque fois que tu le vois avoir sa patinoire, ben tu vois que c'est un joueur de hockey aussi. Là, il y a pas de demi-mesure. Puis il arrive au Centre Bell le soir, c'est pour jouer au hockey. Puis il a juste ça en tête. Puis ça paraît sa patinoire. Donc c'est sûr que me faire comparer à un joueur comme lui, c'est quelque chose d'assez spécial.
Mm-hmm. En fait, je sais qu'il n'est plus avec vous autres, là, mais il me semblait toujours qu'avoir quelqu'un comme Alexandre Burroughs sur le staff des entraîneurs du Rocket, c'était vraiment le meilleur modèle pour plusieurs gars de voir, OK, effectivement, si tu travailles fort pendant assez longtemps et tu continues, puis tu restes, la détermination soit à point, puis tout ça, que tu peux réussir comme lui, il l'a fait. Toi, étant un choix de septième ronde, étant tout le parcours que Marc-Antoine a mentionné tantôt, comment est-ce qu'Alexandre t'a aidé au début de la saison? Je sais qu'il a quitté à un moment donné, mais au début de la saison, comment est-ce qu'il t'a aidé en termes de motivation, d'inspiration et juste pour établir ton mindset à chaque jour?
En fait, là, au niveau de l'inspiration, là, je pense que ça s'est même pas fait au début de la saison. Là, j'ai eu la chance de le côtoyer un peu avant, puis j'ai suivi son parcours aussi. Donc, c'est sûr que de tout son parcours depuis que je joue dans la Ligue nationale, ça a été une inspiration pour moi. Puis je le regardais jouer souvent. Puis il est le fun d'avoir joué sa patinoire. Puis quand je suis arrivé au camp, mais de pouvoir côtoyer un gars qui a une expérience de même, puis qui c'est une inspiration pour nous, les Québécois, qui veulent percer dans la Ligue nationale en travaillant fort. Bien, juste le fait de le côtoyer tous les jours, ça a été vraiment quelque chose de motivant pour moi. Puis en plus, là, je pense qu'Alex Burrow, c'est un motivateur dans l'âme. Là. Il embarque sa patinoire dans la chambre, sa patinoire. C'est un gars qui amène beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion. Ça, il me l'a transmis dans le camp. Là. À chaque fois qu'on avait des rencontres ensemble, il allait me chercher dans les sentiments, puis vraiment, il me poussait à aller chercher mon maximum.
Je pense que Harpin il a fait mention tout à l'heure en disant que tu n'avais pas raté un seul match depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a juste Corey Schoeneman et toi qui pouvaient dire ça. Quand on regarde ta production au fil de la saison, on voit qu'au milieu de l'année, là, si on divise ça par tranche de 10 matchs, mettons, tu as eu une séquence à un moment donné de 11 points en 10 matchs où visiblement les choses ont cliqué, tu étais sur un trio, tu étais sur le premier trio du Rocket à ce moment-là. Mais si on divise ta saison en 3, est-ce que tu dirais que est-ce que c'est les débuts qui ont été plus difficiles au niveau d'arriver chez les pros, t'adapter à un nouvel environnement, ou bien c'est davantage quand on arrive plus tard dans la saison, quand il y a ce qu'on appelle en anglais le grind, puis en plus, il y a le fait que vous n'aurez pas de séries éliminatoires qui fait en sorte que peut-être que d'aller chercher le jus de la compétition est un petit peu plus difficile, sachant que tout va finir un petit peu en queue de poisson. Alors, quel bout t'a apparu plus facile, quel bout t'a apparu plus difficile?
C'est sûr que le milieu de la saison, j'ai eu une séquence qui était plus favorable, puis c'était plus facile dans le sens que vraiment... Je sais pas, j'avais de l'énergie en plein milieu de la saison, t'es pas nécessairement fatigué. On a eu un gros stretch, puis on gagnait, encore une fois, on gagne aujourd'hui, là, mais on a eu une séquence vraiment victorieuse. Puis quand il y a une séquence de même, c'est sûr que tout fonctionne pour tout le monde. C'est sûr que ce segment-là, il a été vraiment bon pour moi. Mais je pense qu'en général, là, même si au début de la saison, j'avais peut-être un peu moins de points, puis j'en ai peut-être en ce moment un peu moins, moi, je pense que ce qui était important pour moi, c'était vraiment d'être consistant, puis d'arriver à chaque jour, puis de donner mon maximum. Ça, ouais. je pense que je l'ai fait. Là. Écoute, je l'avais dit au début, là, pour moi, les points en ce moment, c'est juste c'est du bonus parce que même si je n'en fais pas, je pense que je contribue bien au succès de l'équipe en ce moment de la façon que je travaille. C'est sûr que je veux annoncer la feuille de pointage, je veux compter les buts le maximum possible, mais c'est vraiment de faire une différence en m'impliquant, là, même si je ne fais pas de points.
Je vais embarquer sur un sujet où... Non, j'essaie de formuler ma question dans ma tête, mais parce que dans le fond, on a rarement vu dans le club école du Canadien autant de hauts choix au repêchage, autant d'espoirs qui sont quand même importants pour l'organisation. Puis de l'autre côté de la médaille, c'est quelqu'un comme toi qui n'est pas un haut choix, mais qui performe quand même à la hauteur de tous les autres espoirs. Tu penses-tu que, tu sais, je pense à Ylonen, Poehling, tu sais, les défenseurs, Brooke, Fleury, tout ce monde-là. Comment est-ce que c'est les circonstances sont différentes pour toi? S'ils sont différents, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes peut-être envers des choix de première ronde ou deuxième ronde. Toi, tu te sens-tu un certain niveau d'attente de la part de l'organisation ou même de la ville de Montréal? As-tu le même sentiment? Et comment est-ce que tu comparais ta situation à eux autres? Est-ce que c'est plutôt la même chose ou est-ce que c'est un peu différent?
Je pense, là, si je parle honnêtement, là, c'est sûr que le niveau d'attente à la base, c'est sûr qu'il est plus élevé envers un choix de première, deuxième ronde qu'envers moi. Tu sais que j'étais un joueur de septième ronde à ma dernière année d'éligibilité, voyons. J'ai la misère à dire. Donc, c'est sûr que les attentes à la base sont plus hautes pour eux. Mais je pense au final, on est tous dans la même situation. Dans le sens, on joue tous avec le Rocket, on est tous à la même place au même moment. Puis c'est pas parce que t'es un choix de première ronde ou moi un choix de septième ronde que... Lui, il doit plus performer. Moi, je pense que c'est une question de tout le monde doit performer au maximum de ses capacités. Donc, je pense que les attentes envers moi ont peut-être augmenté au fur et à mesure que la saison allait. Plus on jouait de matchs, plus j'avais peut-être un peu d'attente envers moi. Dans le sens, j'avais beaucoup de temps de jeu, je jouais dans toutes les situations. Puis, c'est sûr que je m'attends que l'année prochaine, il y ait encore des bonnes attentes envers moi. Puis ça, je pense que c'est juste positif dans le sens que s'il y a des attentes envers moi, c'est que j'ai bien fait. Il faut que je reproduise la même chose que j'ai fait cette année, l'année prochaine.
Quelle énergie ça te demande, avec le jeu, le style de jeu que tu as, de foncer au filet, pas avoir froid aux yeux. Puis bon, on le sait, tu n'es pas nécessairement le gars avec le plus gros gabarit. À quoi? 5-9, 175, grosso modo. Ouais. Est-ce que... Avec environ. Ah, oh, de ce temps-ci, c'est plus 172, mais on le dira pas.
plus 180 au début, puis là, c'est rendu ça à 75.
Ah, ah ouais, OK, c'est ça. T'es comme ça. Il y en a des gars comme ça qui en perdent au fur et à mesure que la saison avance, puis c'est pas évident. Mais justement, pour un gars de ton gabarit qui a pas froid aux yeux, tu sais, qui veut vraiment aller dans les endroits difficiles de la patinoire, quelle énergie ça demande de pratiquer ce style de jeu-là dans une nouvelle ligue quand tu es confronté à des joueurs qui sont plus matures puis plus lourds?
Ah, ça demande. Ben ça, c'est d'ailleurs une des adaptations, je pense, une des grosses étapes entre le junior puis la Ligue américaine que j'ai trouvé, c'est justement la maturité des gars puis le fait que mon style de jeu, justement, c'est d'aller en avant du but, d'aller dans les coins. Donc, quand je fais affaire à des gars qui sont plus gros, sont plus pesants que moi, c'est sûr que ça demande plus d'énergie de me battre pour rester en avant du filet. C'est plus longtemps, c'est sûr que les gars, les adultes là-dedans sont matures physiquement, puis les coups de bâton sont plus forts que dans le junior, même chose dans les coins. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'énergie, ça gruge plus d'énergie. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose que je me suis, je pense, adapté pendant au fil de la saison. Puis, tu sais, au début, ça a été un bon choc là, comparé aux juniors, mais de plus en plus, j'ai appris comme des petits trucs en parlant aussi avec des vétérans comme Yannick Veilleux qui va beaucoup en avant des buts. Ouais. Pour essayer de garder ma position plus longtemps puis peut-être dépenser un peu moins d'énergie devant les buts dans les coins.
On parlait à Jake Evans l'autre jour qui est vraiment un bel exemple ben pour toi, mais pour l'organisation aussi, pour le programme que Joël Bouchard est en train d'établir. Aussi un choix de septième ronde, aussi un gars qui est comme développé un peu sur le tard, mais qui a beaucoup de succès en ce moment. Puis parler du fait que en arrivant à Laval, Joël lui a vite fait comprendre quelle sorte de joueur il serait dans la Ligue nationale. Si jamais il va se rendre à la Ligue nationale, c'est à cause de telle chose, puis il s'est vite fait à l'idée que je ne serais pas un joueur de top 6 dans la Ligue nationale, je serais un gars qui est sur le 3e, 4e trio, fiable défensivement, quoi que ce soit. Je me demande si Joël a eu cette conversation-là avec toi. Est-ce qu'il t'a présenté comme un cheminement vers la Ligue nationale de ce que tu dois faire, quelle sorte de joueur tu dois être pour franchir cette étape, cette dernière étape-là, puis te rendre à ton rêve, dans le fond?
On a eu un peu cette discussion-là, environ peut-être au mois de septembre, octobre, là, avant que la saison commence, puis que le camp commence, en fait. J'avais eu cette discussion-là un peu avec lui, puis avec Joël Tizil, était là aussi. Il avait dit, vous n'êtes pas nécessairement dans le sens que moi puis Joël, on n'est pas les gars avec la meilleure shot, le meilleur coup de patin, puis le meilleur talent général. Mais ce qui nous démarque des autres, c'est un peu notre esprit de travail. Puis que si on va se rendre dans la Ligue nationale, un peu comme tu viens de le mentionner, c'est pas parce qu'on va en compter 50 débuts par année, ça va être parce qu'on va travailler puis on va amener de quoi de différent par notre énergie, par notre esprit de travail. Puis on a vu un peu cette discussion-là. Puis à partir de ce moment-là, il nous a donné des trucs pour qu'on change notre façon de jouer, mais pour qu'on adapte notre façon de jouer pour se rendre le plus loin possible au hockey.
D'ailleurs, pour continuer là-dedans, Joël parle souvent de ses partenariats avec ses joueurs. Il dit tout le temps, c'est comme s'il fait des petits contrats implicites avec chacun des gars. Il se met sur la même longueur d'onde avec chacun de ses joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand Joël parle de partenariat? Toi, comment tu décrirais le partenariat que tu as développé avec ton coach?
Quand je pense qu'il parle de partenariat, là, il parle vraiment de la communication qu'il y a avec nous autres, puis vraiment ce qu'il attend de nous autres, il va nous le dire clairement avant le match, puis on sait, avant même que le match commence, on sait qu'il veut que ça se passe à soir. Puis c'est justement, je pense que le partenariat vient du fait qu'il est vraiment clair avec nous autres, puis qu'on sait à quoi s'attendre. C'est juste pour exemple, là, souvent on se donne des objectifs au niveau de, mettons, le stick on puck, finir en avant du gars, des petites affaires de même qui fait que c'est comme des petits défis qui nous lancent, puis ça fait qu'on va aller chercher le meilleur de nous-mêmes pendant la partie, puis vraiment la communication avec lui fait une grosse différence.
Ouais.
Stick on puck, il est gros, hein, avec Joël. Stick on puck, je l'ai entendu plusieurs gars en parler que... Il frappe avec ça à chaque jour, là, que stick on puck. Puis les autres, ils calculent ça avec leur propre gars, mais c'était comme le 20e joueur que j'entends dire stick on puck dans ce chambre-là.
Ben, en fait, tu sais, tantôt, je parlais des trucs qu'on avait parlé avec lui au mois de septembre puis octobre. Ça en faisait partie. Puis sincèrement, vu que je fais plus attention à ça, je trouve que ça fait tellement une grande différence. Ça coupe du temps et de l'espace aux adversaires. Puis, c'est sûr que tous les gars en parlent parce qu'on en parle tous les jours dans le vestiaire. Donc, que tout le monde doit en parler.
Pourtant, c'est un principe qui est quand même assez simple, mais c'est tellement important de focusser là-dessus à chaque présence, à chaque seconde, que le plus tu en parles, j'imagine, le plus ça devient une seconde nature. Puis, tu n'es plus capable de le faire sur la glace, j'imagine.
Ouais, exactement. C'est des habitudes. Si tu arrêtes d'en parler, tu vas comme dévier lentement, mais sûrement tu vas dévier, puis à un certain moment, tu vas le faire de moins en moins. Parce que si tu le répètes tous les jours, tu mets beaucoup d'emphase là-dessus, mais les gars sont portés à plus le faire, puis ça fait une différence dans nos matchs.
Depuis que tu es arrivé avec le Rocket, y a-tu une personne en particulier qui t'a impressionné? Quelqu'un qui te fait « wow », ça c'est quelqu'un qui, soit un modèle ou une personne qui, par son éthique de travail, t'a frappé ou qui t'influence, ou ça n'a pas nécessairement besoin d'être un coéquipier, remarque, là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a plus impressionné jusqu'à maintenant?
On a parlé de Burroughs tantôt, mais si je parle plus en lien avec un joueur, je dirais vraiment Alex Belzile. Pour moi, là, sa façon d'agir, sa patinoire dans la chambre, c'est vraiment un modèle, puis c'est pas seulement un modèle pour moi, je pense que c'est un modèle pour tous les joueurs, mais le fait que moi, je sois un Québécois, puis lui, c'est un Québécois, puis je sais aussi, tu sais, il m'a conté un peu le cheminement qui l'a mené aujourd'hui à la Ligue américaine, puis les opportunités dans la Ligue nationale, il est allé pour les séries. C'est un modèle par sa façon. À chaque jour, il arrive à l'aréna, puis il amène comme une autre dimension. Au début de l'année, je me rappelle, il était blessé, puis à partir du moment qu'il est rentré dans l'alignement, t'as vu tout de suite l'énergie qu'il amenait. Là, c'est un gars qui est porté sur tous les détails, puis il veut que tout le monde les fasse, puis c'est pas négociable pour lui. Donc, je pense vraiment que c'est un leader qui est vraiment important. Puis sa façon d'agir m'a frappé quand je suis arrivé.
Mm-hmm.
Il y a deux gars, deux de tes coéquipiers que j'aimerais t'entendre parler. Parce que nous, on regarde Poehling et Ylönen. Poehling, il connaît une très bonne séquence dernièrement. Puis Ylönen, on peut tous voir un peu le paquet d'habilités qui fait en sorte que c'est un espoir. Comme coéquipier, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux partager sur ces deux gars-là qui ne sont pas aussi évidents en regardant un match, mais en les côtoyant en arrière-scène? Est-ce qu'il y a une couple de choses que tu peux nous dire sur ces deux gars-là?
En fait, je vais parler un peu pour les deux, parce que je pense, comme tu viens de le dire, là, c'est deux très bons prospects, mais espoirs pour le Canadien. Je suis convaincu que très prochainement, ils vont jouer dans la Ligue nationale. Pourquoi? Parce que selon moi, là, sur la glace, on voit très bien leur habileté. Là, c'est évident à chaque fois des matchs. Mais je pense qu'en dehors de la patinoire, ces deux professionnels, les deux, ils agissent de la manière qu'il faut, je pense, pour se rendre loin. Ils ont tellement des bonnes habitudes en dehors de la patinoire que je pense que ça va faire une différence dans leur cheminement.
Votre saison avec le Rocket va terminer le 17 mai. D'ici ce temps-là, ou au-delà du 17 mai, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu regardes là, prochainement? Là?
Mon objectif, je pense à court terme, là, ça se fait après la saison, c'est sûr que ça va être d'aller chercher un contrat. Là, pour moi, c'est sûr que ce serait de signer avec le Canadien. Puis suite à ça, l'année prochaine, c'est de faire ma place. C'est sûr que cette année, j'avais dit au départ que c'était une année plus d'adaptation, d'expérience. L'année prochaine, je m'attends probablement peut-être à commencer avec le Rocket, mais c'est sûr que je regarde le Canadien, puis je veux essayer de faire ma place, puis je vais tout donner pour jouer avec le Canadien. Je sais pas si ça va être l'année prochaine ou plus tard, mais je vais faire ce qu'il faut cet été pour arriver le plus près possible. Puis suite à ça, là, on va voir avec l'organisation ce qui est le mieux pour moi.
Je veux rappeler à tout le monde, à nos auditeurs, que ta situation est un petit peu particulière parce que, étant donné que tu as été drafté sur le tard, le Canadien t'a pas fait signer de contrat d'entrée. Tu as eu un contrat de la Ligue américaine pour un an. De cette manière-là, le Canadien un petit peu achetait du temps parce qu'ils ont tes droits encore jusqu'au 1er juin, si je ne m'abuse. Et là, étant donné que tu étais sous contrat avec le Rocket, tu faisais pas partie des 50 contrats de l'équipe. Sauf que là, la prochaine étape pour poursuivre ton parcours avec le Canadien, c'est d'aller chercher le fameux contrat d'entrée là, de 3 ans.
Oui, exactement. En fait, là, je connais pas tous les détails. Là. C'est quand même compliqué un peu ma situation.
T'es pas le seul. Là.
Je laisse un peu plus mon agent, je l'aurais ça, là, mais... Je ne suis pas sûr à 200%, mais je pense que, étant donné ma situation, je ne peux pas signer un contrat d'entrée de 3 ans. Ça serait un contrat d'entrée de
2 ans. Oui,
ouais, c'est ça. Serait plus court. Il serait plus court à cause de ton âge. Oui, c'est ça.
Ouais. C'est ça, mais c'est sûr que dans le meilleur des mondes, moi, c'est d'aller chercher ce contrat-là. Mais là, pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur les 6 derniers matchs qui nous restent avec le Rocket. Mm-hmm. Puis après, je vais penser plus à ça.
Ben oui. Ben,
en tout cas, à mon avis, tu as fait tout ce qu'il fallait faire là, pour mériter ce contrat-là à date. Je pense que tu as dépassé un peu les attentes d'un peu tout le monde, peut-être pas toi, là, mais les autres personnes. Mais tu connais une super bonne saison. Puis, en tout cas, à mon avis, ça ne devrait pas être une question d'avoir ce contrat-là à faire à un moment donné. Là. Ça, mais je suis pas le DG, évidemment, là, mais c'est, tant qu'à moi, tu mériterais quelque chose.
Merci beaucoup.
Écoute, en terminant, j'aimerais juste savoir rapidement ta réaction par rapport à Joel Teasdale. Ça a été ton coéquipier avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Vous avez gagné ensemble. Vous êtes retrouvé cette année avec le Rocket, ce qui est le fun. Il a connu lui aussi une belle saison recrue. Là, ça se termine avec une autre blessure, le même genou, une autre opération. Ça fend le cœur un petit peu, hein?
Ah, vraiment, là, j'étais vraiment, vraiment très déçu pour lui. Là. Il connaissait des bons moments. Il était en feu dernièrement en plus. Puis, c'est ça, c'est plate, surtout que j'ai vu un peu comme le processus qu'il a vécu à sa première blessure au genou.
Ouais.
Ça n'avait pas été facile pour lui. Là. C'est sûr que c'est une longue période avant de revenir au jeu. Puis il avait tellement hâte de revenir au jeu que je suis déçu que ça s'est aussi court pour lui. Mais je suis convaincu qu'il va mettre les bouchées doubles et il va venir encore plus fort de ça. Là. Joël, on l'a vu cette année, là, ça n'a même pas paru, je pense, qu'il avait été blessé tellement qu'il jouait bien. Puis, je suis convaincu qu'il va revenir encore 2 fois plus fort.
Ah oui, ben on le souhaite. En tout cas, Ça serait, lui aussi, il a tout donné. Ben écoute, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été des nôtres. C'est bien apprécié d'avoir eu ta visite. Bonne chance pour les derniers matchs.
Puis, ben, merci beaucoup.
Puis continuez, écoute, continuez de liquider vos adversaires. C'est assez ridicule comment vous dominez cette division-là.
On va essayer. On va essayer de finir sans beauté.
Ben, c'est ça. Merci beaucoup, Raphaël. Bonne chance pour la suite des choses.
Merci.
Alors, ça a été une rencontre très intéressante avec Raphaël Harvey-Pinard. Tu le sens que c'est un gars qui est content d'être là. Hein?
Ouais, absolument. Ben, écoute, c'est moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant que le Canadien ait utilisé un choix de septième ronde sur lui parce que c'était quand même assez... C'était assez clair à l'époque où... que le Canadien avait un intérêt de lui signer comme peut-être un agent libre qui n'a pas été non repêché. Mais il ne voulait pas prendre cette chance-là. Il voulait absolument l'avoir. Il ne voulait pas prendre le risque que quelqu'un d'autre le signe. Quelqu'un comme, je ne sais pas, le Lightning de Tampa Bay.
Par exemple, juste par hasard.
Ouais. Alors, tu sais, un choix de septième ronde, ils l'ont utilisé sur lui. Et il est arrivé, puis c'est probablement le joueur le plus constant du Rocket du début à la fin de la saison. Il joue un rôle en désavantage numérique, en avantage numérique. Il joue avec des bons joueurs, il est capable de produire offensivement. Puis, tu sais, quand on parle de Brendan Gallagher, c'est vraiment un modèle pour lui à suivre. Et on le voit quand il joue, là. Quand il joue comme Gallagher. Alors... On verra ce que ça donne, mais c'est intéressant d'avoir un gars comme ça qui t'a coûté juste un choix de septième ronde, comme Jake Evans, en passant, et qui est devenu, je pense, un espoir légitime pour l'équipe, pour avoir quelqu'un qui va jouer avec le Canadien d'ici 2 ou 3 ans. Là.
Absolument. Puis on a parlé vers la fin de l'entrevue de sa situation contractuelle, ce qui est intéressant de savoir à son sujet, c'est que si jamais il ne s'entend pas avec les Canadiens, étant donné bon, son statut, du fait qu'il a signé donc un contrat d'un an, un contrat de la Ligue américaine, si jamais il ne s'entend pas avec le Canadien, il ne deviendra pas joueur autonome et à ce moment-là disponible à toutes les équipes. Ce qui va arriver, c'est que à cause de l'article 8.4 de la Convention collective, il serait admissible à retourner au repêchage. Donc, il y aurait une nouvelle année d'admission au repêchage de la Ligue nationale. Et à ce moment-là, s'il n'était pas repêché lors de la prochaine séance, ben à ce moment-là, il deviendrait un joueur autonome sans compensation. Donc, je pense quand même que le Canadien va retenir ses services. Il va y avoir de la place qui va être faite sur la liste des 50 contrats de l'équipe. Puis, je pense que le type d'énergie, tu sais, à chaque fois que... Quand tu te fais appeler le Brendan Gallagher du club école, c'est parce qu'il y a un niveau d'énergie, puis il y a des qualités, non seulement des intangibles, mais des qualités même sur la glace qui font en sorte que tu retiens l'attention de tes patrons. Donc, je pense que je ne m'inquiéterais pas trop à sa place. Je pense que ça va fonctionner. Donc, ben voyons voir là où ça va mener. On sait que la saison du Rocket prend fin le 17 mai, une saison qui prend fin sans Ryan Poehling, étant donné qu'il est opéré à un poignet. Donc, c'est dommage pour Poehling parce qu'il aurait peut-être pu faire partie des Black Aces, les joueurs qui accompagnent le grand club à l'occasion des séries éliminatoires. Mais bon, ça ne fonctionnera pas de ce côté-là. Quelque chose à ajouter en terminant, Harpin?
Non, juste j'ai hâte aux séries. Je pense que notre prochain épisode va pas mal porter là-dessus. On va connaître... en fait, on risque de pas connaître l'adversaire du Canadien rendu à vendredi prochain parce que les Leafs vont affronter les Jets ce soir-là. Et dépendamment de ce qui se déroule au cours de cette semaine-là, ça se peut que... l'affrontement du Canadien ou l'équipe que le Canadien va affronter va seulement être connu cette soirée-là. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, notre prochain épisode va vraiment porter sur les séries à venir. Et on verra d'ici là si le Canadien est capable de se remettre sur les rails, comme on dit.
My God. Il me semble que... On sait que le Canadien est un train, mais il me semble que ces rails-là, on les a cherchés toute l'année. En tout cas... Alors, ben, merci tout le monde d'avoir été là. N'oubliez pas que si vous voulez vous abonner à athletic.com pour lire les articles d'Harpin, les miens et ceux de tout le monde, on a une couverture complète des activités de la Ligue nationale. Entre autres, un excellent portrait dans The Athletic ce matin du juge de ligne Pierre Racicot, qui prend sa retraite samedi soir. Écoute, il est âgé, donc début cinquantaine, je pense qu'il a 53 ans. Et c'est un portrait touchant de ce juge de ligne-là, qui est absolument adorable, vraiment un chic type. Et c'est signé, donc, Michael Russo. Pierre Racicot qui entre... En fait, on rentre dans un... C'est un portrait intime de tout ce qui a été son inspiration dans son travail de juge de ligne tout au long de ses années dans la Ligue nationale. Il y a eu une amitié durable avec un autre juge de ligne, Stéphane Provost, qui a perdu la vie durant le lockout de 2004-2005 dans un accident de moto. Et à la suite du décès de Stéphane, bien, Pierre a mis en place de très, très belles initiatives pour que la famille Provost, les enfants de Stéphane Provost, puissent voir leur avenir assuré. Et donc, c'est une histoire de juge de ligne, c'est une histoire de personnalité québécoise dans le monde du hockey. Et c'est vraiment un récit très intéressant. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez lire dans The Athletic. Et en tant qu'auditeur du Super Athletic, ben, vous pouvez profiter d'un rabais sur votre premier abonnement en allant au athletic.com/supportathletic. athletic.com/supportathletic pour avoir donc un rabais sur votre première année d'abonnement. Merci tout le monde, merci Harpin, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Merci tout le monde, bye bye.